bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est vendredi, c'est le club des idées. Il n'y a pas de place pour les courants au FN. Le sénateur David Rachline l'a encore rappelé ce matin. Les cadres du Front National se succèdent au micro depuis hier pour dire qu'il n'y a qu'une seule ligne, celle de la présidente, et qu'il n'est pas question d'en changer, avec ou sans Florian Philippot. Le départ de l'ex-bras droit de Marine Le Pen n'est pas seulement commenté en interne. Dans le Figaro aujourd'hui, Laurent Wauquiez y voit un motif de satisfaction. Ça ouvre un espace, dit-il, le même que celui pour Nicolas Sarkozy en 2007. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a sans doute quelques raisons de se sentir poussé des ailes. Candidat à la présidence des Républicains, l'élection est prévue en décembre, il est aujourd'hui considéré comme archi-favori, le parti lui tend les bras. Mais dans quel état le récupérera-t-il? Contrairement au FN, on ne marche pas d'un même pas chez LR. Le parti fait un peu penser au PS, on compte aujourd'hui 7 mouvements ou courants en son sein, bien loin de ce que fut le RPR. Et puis il y a tous ceux qui ont fait scission, les constructifs à l'Assemblée, les constructifs au gouvernement. Matignon et Bercy sont aujourd'hui dirigés par des hommes de droite. Pour les Républicains, l'avenir ne saurait être pire. Mais une première éclaircie viendra peut-être, sans doute même, du Sénat dimanche. Selon toute vraisemblance, la Haute Assemblée va rester dans l'opposition, portée par des élus locaux qui ne goûtent guère le régime minceur qui leur est imposé par l'exécutif. Alors comment va la droite ? Où la droite est-elle dans l'opposition ? C'est le premier titre qu'on avait choisi. Finalement, j'hésite parfois à choisir l'un ou l'autre. Vous me direz celui que vous préférez. Vous, c'est-à-dire vous, les trois membres du club présents ici ce soir. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous animez la guerre des idées chaque semaine sur le site Là-bas si j'y suis. Votre dernier invité, c'était Emmanuel Todd. Pour discuter et débattre avec vous, Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Consultant, votre cabinet c'est Footprint Consultant, on peut également vous lire vos éditos dans le magazine Challenge. Et puis Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
La suite dans les idées chaque samedi de 12h45 à 13h30, c'est sur France Culture. Vous êtes par ailleurs professeur associé à l'EHESS. Je peux vous demander finalement lequel titre vous préférez, c'est pas très, très important, mais une question qui est beaucoup plus fondamentale par rapport à la discussion de ce soir, c'est donc ce départ de Florian Philippot du Front National. Enfin, je dis ça, je sais pas s'il faut le prendre au premier ou au second degré avec un petit peu de recul justement ce départ. Est-ce que vous considérez que c'est un fait politique majeur ou bien est-ce que c'est un micro-événement, Aude Lancelin?
Bah, moi, j'aurais tendance à dire déjà que c'est une bonne nouvelle, parce que on peut dire que c'était à peu près la seule personne réellement structurée intellectuellement au Front National. Donc, il est certain, d'une façon ou d'une autre, que le parti en sortira affaibli. Non pas détruit...
Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour le Front National, du coup.
Voilà. Non pas détruit, hein, comme certains partisans de la sortie de l'euro... depuis hier se répandent partout pour le dire. Hein. Le Front National a survécu à des crises extrêmement graves, dont la crise maigrettiste, on le sait. On sait par ailleurs que c'est un parti qui règle tous ses problèmes par des purges et que les numéros 2 ne font pas long feu. Moi je pense que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où le Front National ne servant à rien d'autre en ce moment qu'à bloquer le jeu politique, à vitrifier le vote des classes populaires sur des positions xénophobes inacceptables, qu'ils vivent une crise majeure, voilà, on ne va pas s'en plaindre.
Un affaiblissement pour le FN, Philippe Manière ?
Oui, alors c'était relativement attendu. Il y a très longtemps qu'on sait qu'il y avait en quelque sorte deux fronts nationaux qui cohabitaient dans un Front National nominal. Philippot incarnait le Front National, je dirais, presque de gauche, en tout cas anticapitaliste, antilibéral, anti-européen, plus encore que l'autre faction. Ça me paraît intéressant en soi, c'est-à-dire que le Front National va en quelque sorte revenir peut-être une forme de plus grande cohérence doctrinaire, parce que faut reconnaître qu'on n'était pas certain de comprendre ce qu'il voulait ou ce qu'il plaidait vraiment, et ça s'est beaucoup vu, je trouve, pendant la campagne.
Donc retrouver la cohérence, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, justement,
bonne nouvelle
pour
le
parti.
Front. Après, je suis assez d'accord avec Aude sur le fait que c'est probablement une mauvaise nouvelle, pour le coup, si on pense qu'il retrouve une cohérence doctrinaire, ça peut le rendre plus désirable, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on peut appeler de nos voeux, mais ça c'est une autre question. Moi ce qui me frappe, c'est au-delà de cet incident, qui est une forme de clarification, c'est que si on fait le bilan des 18 derniers mois du Front National, on peut dire, je pense, qu'il est en train de se faire, et pas forcément en train de disparaître, mais de se faire manger en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il y a eu comme fait politique important cette année ? Naturellement, l'élection d'Emmanuel Macron, naturellement, l'apparition des Insoumis, mais l'autre fait politique dont, à mon avis, on ne parle pas assez, c'est l'effondrement du Front National par rapport à ce qu'il était en termes d'intention de vote l'an passé. Rappelez-vous, il y a à peu près un an, tout le monde disait il fera entre 30 et 40% à l'élection présidentielle.
Alors, enfin, vous semblez quand même oublier que Marine Le Pen était au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Elle était au deuxième tour avec un score très inférieur à ce que tout le monde pensait il y a encore un an. Ouais. Beaucoup de gens disaient 30 à 40%.
Suffisamment important pour être qualifié.
Oui, mais ça s'est joué dans un débat. Je ne suis pas en train de dire que le Front National a disparu. Je suis en train de vous dire qu'elle a fait beaucoup moins que prévu. Pourquoi ? Parce que les Insoumis ont fait beaucoup plus que prévu. Et donc, il y a une partie des électeurs enragés, en colère, appelez ça comme vous voulez, qu'on voit apparaître dans beaucoup d'autres pays, bien sûr les États-Unis, mais d'autres aussi, qui étaient auparavant des électeurs naturels du Front National, qui probablement n'étaient pas très fiers d'y être, ne sont pas forcément d'extrême droite, ne sont pas forcément xénophobes, et qui se sont trouvés plus confortables chez Mélenchon. Et puis là, on voit donc concrètement disparaître la dimension de gauche du Front National que portait Florian Philippot. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, le Front National était très libéral. Il était pour l'abolition de l'impôt sur le revenu, par exemple. Voyez, donc il a fait une traversée complète de l'échiquier. Là, non seulement les choses se clarifient, puisque la partie gauche, en fait, en quelque sorte, est partie, mais je pense qu'une grande partie des électeurs de gauche, entre guillemets, du Front National, probablement aussi électeurs du Parti communiste sont allés chez Mélenchon. Et donc, voilà, je pense que c'est un élément au milieu d'une évolution qui a eu d'autres symptômes.
Voilà, Sylvain Bourmeau, le départ de Florian Philippot, ça redroitise le Front National, en tout cas sa vocation à clarifier le positionnement idéologique du FN.
C'est difficile de redroitiser le Front National. Hein. Le Front National est on ne peut plus à droite. C'est un parti d'extrême droite.
Je pense. Pas sur le plan économique.
C'est un parti d'extrême droite.
Il ne s'en revendique pas en tout cas.
C'est un parti d'extrême droite dont la leader Marine Le Pen avait menacé les journalistes qui utilisaient cette étiquette de procès. Donc c'est vrai que je le redis, c'est un parti d'extrême droite. Et le Front National, donc finalement, c'est ce départ de Philippot, c'est un événement classique, on va dire, dans la vie politique. Ça nous change, hein, parce que ces derniers mois, on a vu beaucoup de choses assez nouvelles. Et là, finalement, ça ressemble au départ de Maigret, ça ressemble à des tas de départs de partis politiques. Je suis pas du tout d'accord, hélas, avec l'analyse d'Aude Lancelin, parce que moi, j'aimerais bien, comme elle, penser que ça va affaiblir le Front National, l'affaiblir parce qu'il va perdre un cerveau.
C'est même pas un cerveau, d'après Aude Lancelin, c'était le cerveau. C'était le seul cerveau, ce qui est un petit peu.
Mais je crois.
Pas très sympathique pour tous les autres au FN. Hein.
Je crois pas que ce soit juste. C'est-à-dire que sinon, le Front National n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Il y a des gens dans ce parti qui savent faire de la politique. Il faut leur reconnaître ça. Ça n'empêche qu'ils sont d'extrême droite. Et puis, donc, je suis pas non plus d'accord avec ce que vient de dire Philippe Manière, parce que je pense au fond que ce départ risque de clarifier les choses, mais risque de profiter véritablement au Front National. Philippot, il était un peu...
Là, on est d'accord, hein, Sylvain, d'accord. C'est ce que je disais. Hein,
ouais. Il est l'intrus. Et dans le Front National, il était totalement l'intrus. Alors surtout quand on a un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est un inspecteur des finances, un énarque, etc. Florian Philippot pensait donc qu'il a fait il a fait HEC, il a fait l'ENA. Il représente socialement tout ce que détestent bon nombre des électeurs du Front National. Donc, et par ailleurs, de façon très paradoxale, à la fois il était l'incarnation dans ce parti de quelque chose que ce parti déteste, qui est la haute fonction publique, etc. Et il était l'incarnation, étrangement, parce que d'habitude la haute fonction publique est plutôt très pro-européenne, etc., d'un souverainisme qui a, je pense, empêché le Front National de continuer de progresser. Tout le monde disait que si Marine Le Pen avait parlé clairement pendant la campagne présidentielle sur l'Europe en expliquant, rassurant, entre guillemets, des électeurs pour leur dire « non, on ne va pas sortir de l'Europe », etc., elle aurait fait un meilleur score. Or, ce qui l'a empêché de le faire, c'est Philippot. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que le départ de Philippot va continuer de renforcer le Front National. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est ça que je voulais dire avec Philippe Manière, c'est que... faut pas se fier aux projections, à ce qu'on attendait du Front National. Et regardez, t'as eu raison de rappeler que Marine Le Pen était au deuxième tour, que certes, elle a pas fait le score qu'on attendait,
ça fait trois ans qu'on l'attendait. Mais on l'attendait bien plus haut, le maigre 21% qu'elle a fait.
Mais elle a fait un score plus important que son père.
Bien sûr.
Et ce parti continue de jouer un rôle dans la structuration de la vie politique en France, déjà pour une raison simple. On va parler tout de suite de savoir si la droite est dans l'opposition. Il faudrait savoir d'abord ce que c'est que l'opposition. techniquement l'opposition, puisque dans un pays où l'élection présidentielle fait tout, l'opposition, c'est Marine Le Pen, techniquement, puisqu'il y a une majorité présidentielle. Au deuxième tour, elle avait face à elle l'opposition. Et le risque qu'a pris Macron dans cette affaire, on s'en souvient, c'est de faire du Front National l'opposition avec un grand O, en quelque sorte. Et donc, tout ça, moi qui suis pas, qui suis un peu effrayé, et même beaucoup par le Front National, ça ne me rassure aucunement, ce départ de Philippot.
Oui, de l'enfant.
Non, mais écoutez, d'abord, je reviens juste sur la question des cadres. Je ne veux insulter personne. Enfin, tout le monde sait qu'il y a un problème majeur d'encadrement au Front National. Alors, je sais bien qu'avec
ils y travaillent. Il y en a En Marche aussi.
Je sais bien qu'avec les députés La République En Marche, les critères ont baissé. Mais enfin, tout de même, tout le monde sait qu'au Front National, c'est un problème qui est même verbalisé. Bon, je voudrais revenir surtout sur ce que disait Sylvain Beaumont, puisque vous partez du principe, Sylvain, que les classes populaires votent Front National.
Ah non, j'ai jamais dit ça.
Par xénophobie.
Non, je parle pas des classes populaires.
Si,
j'ai jamais prononcé ce mot, c'est pas les classes populaires.
Juste...
Non, mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit.
Attendez.
Pas les classes populaires.
Les électeurs du Front National, oui.
Non, c'est pas pareil.
Attendez.
Je pense aux petits commerçants artisans qui détestent les énarques. Je parlais pas du tout des classes populaires.
Vous venez de dire, Sylvain, vous venez de dire que le fait que les questions économiques et surclassé les questions identitaires pendant la campagne avait plombé Marine Le Pen, probablement, et avait éventuellement empêcher son élection. Moi, je ne pense pas ça, si vous voulez. Je pense que, d'ailleurs, l'affaire du référendum de 2005 le prouve. Si les gens, la méfiance à l'égard de l'Europe, ce n'est pas de la xénophobie, elle touche avant tout une crainte économique, une crainte de précarisation qui s'est répandue notamment dans les classes populaires et dont le Front National a su diaboliquement jouer. C'est ça le problème. Donc il ne suffit pas de faire disparaître Florian Philippot pour résoudre ce problème-là. Je pense par ailleurs qu'il y a quand même une question qui va être un petit peu assaini et clarifié, c'est la question, justement, la discussion autour de l'Europe, parce que elle était salie par le Front National constamment. Toute personne qui émettait des critiques par rapport à l'Union européenne, au fonctionnement des institutions actuelles ou à l'euro, passait pour un suppôt du Front National. Avec ce départ-là, il y a une forme de réouverture de la discussion possible. Et il faut bien constater aujourd'hui, malheureusement, que très peu de partis portent cette discussion-là.
Alors, on a dit des effets de ce départ et du sens qu'on peut donner de ce départ de Florian Philippot Front National. Continuons à examiner l'impact que peut avoir justement cette décision sur la droite et notamment les Républicains. J'évoquais en tout début d'émission cette réaction de Laurent Wauquiez qui est cité dans le Figaro de ce jour et qui dit: la crise au Front National valide complètement ma stratégie, ça ouvre un espace. Cette crise crée une attente tournée vers la droite. Alors pour rester sur le même type de questionnement que j'ai utilisé au début, est-ce que c'est aussi une bonne nouvelle pour la droite, avec peut-être l'idée de devoir se composer une alliance, on en parle beaucoup, entre un Laurent Wauquiez, un Nicolas Dupont-Aignan, et puis pourquoi pas donc Florian Philippot, il va bien falloir qu'il aille quelque part, Philippe Manière.
Je ne sais pas, c'est très difficile à dire parce qu'il s'attache toujours à toute alliance avec le Front National, et c'est assez naturel évidemment et légitime, une forme de tabou.
Alors, sauf que là, il n'y est plus.
Ici, il y est quand même, parce que ce que dit Wauquiez, c'est ce que dit d'ailleurs la droite depuis assez longtemps, mais lui le dit de manière plus explicitement dragueuse, j'allais dire, c'est qu'il n'a pas de respect pour le Front National, mais qu'il a le plus grand respect pour les électeurs du Front National. C'est le discours habituel de la droite. Et il faut reconnaître que ce n'est pas absurde, quoi qu'on pense de la droite. C'est-à-dire que si vous voulez faire du mieux le Front National, il faut bien que les électeurs du Front National aillent ailleurs. Alors certains, je le disais, étaient venus du Parti communiste et sont probablement repartis chez les Insoumis. Voilà, je ne sais pas combien, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas naturellement anticapitalistes, qui sont, on évoquait tout à l'heure cette population, voilà, on part monter à Poujade, mais de petits commerçants, de petits artisans. Ces gens-là, s'ils ne sont pas au Front National, et je crois comprendre que c'est l'objectif d'un certain nombre de gens autour de cette table que le Front National ne prospère pas, s'ils ne sont pas au Front National, il faut bien qu'ils soient quelque part, et donc naturellement, il faut qu'ils soient à droite. Donc, Laurent Wauquiez ne cache pas sa volonté de conquérir cet électorat. Je ne crois pas qu'il soit encore en rupture avec le discours traditionnel de la droite qui, encore une fois, toujours, depuis maintenant une dizaine d'années, dit on respecte les électeurs du Front National parce qu'on voudrait les voir venir chez nous, mais on n'a pas de respect pour les idées du Front National. Et encore une fois, je pense que c'est cohérent du point de vue de quelqu'un qui qui critique le Front National et qui a la hantise de sa prospérité, et je crois encore une fois comprendre que beaucoup de gens autour de cette table, et pas seulement, sont sur cette vue, c'est assez cohérent de souhaiter que la droite reconquière ces électeurs-là. Alors, est-ce que Wauquiez ira plus loin? Parce que le vrai tabou maintenant, c'est le tabou organisationnel, en quelque sorte. Est-ce que on parle de fusion, de rapprochement, de passage de frontières partisanes, en quelque sorte? Je pense que c'est assez coûteux. Si Wauquiez fait ça, il risque de perdre plus qu'il ne gagne. Et je pense que toute sa stratégie va consister, mais je ne suis pas devin, mais je pense que si je devais le conseiller, j'allais dire, pardonnez-moi, je lui conseillerais de continuer à draguer les électeurs du Front National comme il le fait. Je parle d'un strict point de vue tactique, pas en opportunité morale, naturellement. Mais je pense encore une fois que c'est plutôt bon pour le pays que les gens d'extrême droite reviennent à la droite. C'est quand même moins fâcheux. Et d'essayer de les faire venir sans pour autant procéder à la transgression ultime que serait un rapprochement officiel entre état-major et entre partis. Mais ça lui ouvre, il a raison de le dire, je crois, ça lui ouvre une forme d'espace, d'autant qu'il tire la droite vers une droite que moi je n'apprécie pas beaucoup, qui est effectivement assez identitaire et qui a, elle aussi, une forme d'écho un peu anticapitaliste, anti-élite, beaucoup moins explicitement que le Front National, mais il y a déjà une forme de cousinage. Oui, je crois qu'il y a un espace pour lui, et oui, je pense qu'il va le saisir. Je ne crois pas, encore une fois, qu'il ira jusqu'à la transgression ultime, c'est-à-dire le rapprochement.
Bon, alors restons justement sur cette approche qui est la vôtre, Philippe Manière, d'une réflexion de ce que serait l'intérêt stratégique aujourd'hui pour Laurent Wauquiez face à ces mouvements qui sont assez importants, et notamment donc avec ce départ de Florian Philippot. Vous, Sylvain Bourmeau, je vous poserai aussi la même question, vous, Aude Lancelin, quel conseil vous donneriez à Laurent Wauquiez? Ça serait quoi la bonne stratégie? Non, mais au-delà de l'appréciation de son positionnement politique, mais cet espace-là, c'est vrai que a priori, en tout cas, c'est...
Je me garde bien de donner des conseils à Laurent Wauquiez.
Moi aussi, je vous rassure.
Juste,
il serait peut-être très heureux de les recevoir de vous.
Je peux juste vous proposer une esquisse d'analyse pour répondre à votre question. Cet espace dont il parle, qui s'ouvrirait avec le départ de Philippot, le moins qu'on puisse dire, c'est que il va être contesté très très durement par le Front National aussi, et que Wauquiez a tort, à mon sens, de se réjouir trop vite en imaginant qu'il va pouvoir récupérer comme ça des parts de marché politique avec le départ de Philippot, pour une autre raison qu'on n'a pas dit tout à l'heure à propos de ce que le départ de Philippot peut produire aussi au Front National. Je vais parler de l'Europe où son départ peut rassurer des électeurs du Front National qui sont pas pro-européens, qui continueront d'être contre l'Europe, mais qui adorent râler contre l'Europe, mais qui vont pas jusqu'au point de prendre le risque de sortir de l'Europe, quoi. Y a une autre dimension. C'est, vous savez, il s'est passé des choses dans ce pays. Du côté de la droite réactionnaire, non seulement sur les questions identitaires, mais sur les questions de société, sur les questions des mœurs. Il y a eu les manifs contre la loi Taubira. Il y a eu le choix par ce peuple de droite de François Fillon sur ces positions-là à la primaire de la droite. Et en fait, le Front National n'a pas bénéficié du tout, lui qui était le parti des catholiques intégristes, Romain Marie, etc., n'a pas bénéficié de ça à cause de Florian Philippot. Le Front National a été extraordinairement silencieux sur on l'a pas entendu contre la loi Taubira, et je pense que ça a déstabilisé un certain nombre d'électeurs du Front National ou d'électeurs potentiels du Front National. Je vois avec le départ de Philippot une possibilité pour Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen d'aller rechercher ou d'aller chercher ces électeurs de la droite la plus réac, la plus traditionnelle, qui préféreront l'original du Front National à ce que Laurent Wauquiez va essayer de reconstituer. Je dis pas que c'est gagné pour le Front National, je dis simplement que cette concurrence va être extraordinairement rude.
Aude Lancelin.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a une porosité idéologique objective entre Laurent Wauquiez et le vieux Front National, le Front National historique, qui d'ailleurs a été verbalisé par le Patriarche, par Jean-Marie Le Pen, qui a dit qu'objectivement, c'était le candidat de droite le plus attractif pour l'électorat FN et qui a affiché une proximité avec Sens Commun et qui a eu des paroles très limites sur l'homosexualité, disant qu'elle était en opposition à ses valeurs personnelles. Et tout ça fait évidemment écho à une droite extrêmement réactionnaire qui, au Front National, avec Florian Philippot, était un petit peu orpheline jusqu'ici. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi, je pense que jamais Laurent Wauquiez ne franchira ce Rubicon-là. Jamais il n'ira faire alliance avec le Front National. Jamais même il ne récupérera des satellites en perdition très marqués Front National comme Philippot. Pour la bonne et simple raison, parce que Laurent Wauquiez a eu une intelligence politique, je dois dire, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et c'est celle précisément d'avoir essayé de redonner une identité à la droite. D'une certaine façon, c'est un petit peu un disciple conscient ou inconscient de Carl Schmitt, c'est-à-dire que ce qui structure la politique, c'est l'ami et l'ennemi. Donc il a dit, les constructifs qui sont avec Macron, tout le cheptel macronien, on va s'en débarrasser. Il faut absolument, pour sauver la droite, reposer la droite en termes d'identité.
Et d'une certaine façon, c'est peut-être Emmanuel Macron qui a eu l'intelligence politique que de permettre justement à quelqu'un comme Laurent Wauquiez d'être en mesure de diriger le parti Les Républicains. C'est-à-dire justement en attirant à lui ces fameux députés constructifs, il contribue aussi à remettre très à droite ce parti.
Emmanuel Macron, du reste, on en a déjà parlé ici, et tire le bilan, voilà, de 40 ans de dérive socialiste et de rapprochement avec la droite. Et voilà, d'une certaine façon, le milieu des affaires était scindé en deux parties, un parti de droite et un parti de gauche. Il s'est désormais réunifié très bien. Mais juste pour terminer d'un mot sur Laurent Wauquiez, je ne fais pas partie des gens qui disent oui, les constructifs, il faut les laisser dans Les Républicains. Je pense que la droite est en train de se déchirer, de se fractionner en faisant ça. Je pense qu'au contraire, c'est indispensable pour la survie des Républicains, ce qui est en train de se jouer autour des constructifs.
Philippe Manière.
Oui, non, peut-être quand même un mot sur le contexte. Si c'est cette question qu'on était en train d'évoquer ce soir est pertinente, c'est parce qu'il y a en France, encore une fois, comme dans beaucoup d'autres pays, une espèce de grand mouvement de retour de balancier sur une certaine catégorie de valeurs que la droite ne se sentait pas obligé de défendre jusqu'alors, parce que les élites de droite sont en réalité relativement ouvertes sur les sujets que vous avez évoqués, parce que c'était donc peu payant, qu'il n'y avait pas un peuple de droite assez excité sur ces sujets-là pour que ça constitue, pour reprendre l'expression de Sylvain Beaumont tout à l'heure, une part de marché désirable. Aujourd'hui, il faut quand même bien voir que, à tort ou à raison, moi je pense qu'on peut comprendre cette évolution-là, mais il y a une évolution, c'est-à-dire qu'à droite, il y a beaucoup de gens qui, sans être xénophobes, sans être obsédés par l'identité, considèrent que la tradition s'est perdue et qu'il y avait dans la tradition des choses qui méritaient d'être préservées. C'est là-dessus que sont allés non pas seulement Wauquiez maintenant, mais pendant la compétition pour la primaire de la droite, on le signalait tout à l'heure, François Fillon, mais aussi Jean-François Copé. Ces gens-là ne sont pas suspects de xénophobie, ce ne sont pas des racistes. En revanche, ils ont identifié, je pense que ça correspond probablement pour partie à leur conviction, par surcroît, mais s'ils l'ont fait, c'est surtout parce qu'ils avaient identifié qu'il y avait cette espèce de fermentation d'une partie de la droite qui est demandeuse d'une espèce de retour à la tradition. Voyez à quel point, par exemple, la nomination de Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale fait consensus, pratiquement. C'est-à-dire que ce sont des sujets sur lesquels...
À droite.
Au-delà.
À droite.
À droite, évidemment, mais au-delà. Et je ne dis pas que toute la gauche est convaincue par Jean-Michel Blanquer, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Non, c'est plutôt
mais
le contraire.
Et je ne pense pas que la gauche soit aussi fermée à ce qui est en train de se passer qu'on aurait pu l'imaginer si on nous avait décrit il y a seulement un an.
On n'a pas les mêmes sources ni les mêmes informations.
C'est toujours comme ça. Mais moi, mon observation, c'est qu'il y a des gens de gauche qui ne sont pas hystérisés par ce qu'est en train de faire Blanquer, qui clairement ressortit au retour du balancier. On peut penser qu'il va trop loin, trop vite, peu importe, chacun peut avoir ses opinions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, en France comme ailleurs encore une fois, cette espèce de peuple de droite traditionnel, je ne crois pas qu'on puisse dire réactionnaire, encore que techniquement, quand vous voulez revenir à une tradition qui est en voie d'érosion ou qui est contestée, vous êtes réactionnaire, techniquement. Mais ce ne sont pas des gens qui veulent détruire ou qui veulent casser, ce sont des gens qui disent, attention, on va trop loin dans la perte de la tradition et d'un certain nombre de valeurs. Encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ça crée un peuple de droite qui a des déterminismes, et donc ça crée un marché politique, qui a des déterminismes qui sont assez différents de ce qu'étaient les déterminismes de la droite il y a seulement 3 ou 5 ans. Et je pense que c'est ça qui rend ces discussions pertinentes et c'est ça qui renouvelle l'interaction entre la droite et l'extrême droite. Je persiste à penser que, ce que disait à l'instant, c'est une excellente expression, le franchissement du Rubicon est extrêmement coûteux, justement sur l'ultime critère où il y a quand même encore une vraie différence qui est la xénophobie et tout ce qui est ressorti au discours de haine.
Est-ce que ce qui ressort finalement du coup de cette discussion, élections. Ça ne va pas à l'encontre de l'analyse qui a peut-être été un petit peu hâtive au moment de l'élection présidentielle, de cet effacement de la gauche et de la droite. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de constater que s'il y a peut-être une sorte de ventre mou qu'on a un peu de mal à identifier, il y a quand même une droite et une gauche qui sont désormais clairement identifiées. Alors peut-être qu'on peut les qualifier de radicales, mais en tout cas on sait un peu plus les définir et les cerner, Sylvain Bourmeau.
Oui et non. Oui, non, dans la mesure où quand même il faut repenser tout ça dans un paysage politique qui est bouleversé dans des proportions qu'on n'a pas connues depuis très longtemps. Parce que si vous raisonnez comme vous venez de le faire, quid du gouvernement ? Quid de la majorité à l'Assemblée nationale ?
Bah ça s'appelle le centre, par exemple, non ?
On les met où ?
Alors le centre, c'est compliqué à définir, c'est ce qui n'est ni à droite ni vraiment à gauche.
Sauf que les choses ne fonctionnent pas comme ça, historiquement, on le sait, et je crois que, puisqu'on parle de la droite aujourd'hui, que la principale difficulté de Laurent Wauquiez va être, non pas avec le Front National, parce que je pense que, on en a parlé, je pense que ils vont être en concurrence sur un certain nombre de choses, je ne suis pas sûr que Wauquiez soit le mieux placé, mais c'est plutôt dans son rapport au gouvernement le problème. Parce que si on revient à votre question du départ, celle que vous aimiez bien, savoir si la droite est dans l'opposition, en fait, la question c'est, est-ce que le gouvernement, il est de droite ou il est de gauche ? Je veux dire, on vient de prendre l'exemple de M. Blanquer. M. Blanquer mène une politique de droite, une politique réactionnaire, a dit Philippe Manière, techniquement, au sens technique, réactionnaire.
Ça veut dire quoi ? Il mène une politique de droite, c'est-à-dire quelles sont les décisions Jean-Michel Blanquer, qu'il prend, typiquement de droite.
Retour à la tradition de l'enseignement,
C'est très simple, il agite des symboles sur le retour à la tradition, les fondamentaux, alors qu'ils n'avaient jamais disparu. Il suffit de lire les commentaires récents de Michel Lussault, par exemple. Il casse la réforme des collèges, qui était une vraie réforme de gauche, de Najat Vallaud-Belkacem, par exemple. Et puis, il suffit, on a d'autres indicateurs, de regarder de qui il s'entoure. Il s'entoure de gens qui étaient avec Darcos, avec Robien, avec tout un tas de ministres de droite. Son infrastructure administrative, son cabinet, il s'appuie sur les réseaux de droite de l'éducation. Donc ça, c'est un indicateur. On a un ministre à Bercy, M. Le Maire, qui est un homme de droite. On a un Premier ministre à Matignon, qui est un homme de droite. Si on regarde la politique, les politiques publiques menées par le gouvernement, les quelques décisions qui ont été prises depuis l'arrivée à Matignon de cet homme de droite, eh bien, on a clairement... citez-moi des décisions de gauche. Citez-moi des mesures de gauche. Moi, je n'en vois pas. Donc, on a un gouvernement de droite en ce moment. Alors ça, c'est le problème numéro un pour un parti de droite qui ne fait pas partie du gouvernement. Comment se définir ?
Qui est en mesure de citer des mesures alors, de gauche ou en tout cas des projets de gauche,
une bonne question parce que, dans le fond, ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle mesure de droite ? Qu'est-ce qu'on appelle mesure de gauche dans l'enseignement ? Typiquement, sur les langues anciennes, sur les classes bilingues, etc., je ne crois pas que ce soit de droite ou de gauche. Ce sont deux manières différentes de voir la manière dont on peut le mieux servir l'arrachement à leur déterminisme de naissance de gamins qui, selon une vision, ne doivent certainement pas être exposés à des choses trop exigeantes parce qu'ils passeront pas la barre, et selon une autre vision, vont bénéficier à fond de ça, quoi qu'étant issus de milieux défavorisés, parce qu'ils en ont la possibilité. Et donc, vous pouvez très bien défendre que la mesure, par exemple, de retour à un enseignement plus intensif des langues anciennes, retour aux classes bilingues, est complètement...
C'est une manière, toujours, de relativiser le collège unique.
Non, c'est pas une manière de... Là, vous parlez techno, Sylvain. Moi, je vous parle philosophie de l'enseignement.
Moi, je vous parle parents d'élèves.
J'ajoute, pardonnez-moi, que les résultats spectaculairement catastrophiques des pédagogues qui dominent l'éducation nationale depuis 25 ans, amènent à
Contestation. Si dominait, on n'en serait pas là.
Pardonnez-moi.
On aurait des meilleurs résultats dans les enquêtes PISA,
certainement pas. Ils nous ont infligé des choses qui heurtent le bon sens et l'intelligence élémentaire, et on a le résultat qu'on a, les classements PISA et le désastre que chacun constate en matière de culture générale et de compétences élémentaires.
Parce que les pédagogues n'ont pas pu mettre en œuvre les mesures qu'ils voulaient mettre.
De gauche, toute personne qui n'est pas pédagogue est considérée par vous comme étant de droite. Mais je pense que l'enseignement tel qu'il est vu par Blanquer n'est pas de droite ontologiquement. C'est une autre vision de voir la mission de l'enseignant.
Mais regardez
par rapport
les couvertures de presse, regardez les journaux qui saluent Blanquer.
On va écouter Audelance Lin.
Oui, peut-être que le sujet de l'enseignement n'est pas le plus brûlant du jour. On a une réforme du Code du travail qui vient d'être signée aujourd'hui. On a l'état de droit qui est quand même sous une grande menace dès la semaine prochaine.
La gauche n'avait pas brillé là-dessus non plus.
Non, malheureusement.
Oui, mais ce que vous appelez la gauche, bon, voilà, et qui en fait était le parti qui a mis Emmanuel Macron au pouvoir. Il faut bien le dire. Hein. Il s'agit de l'ancien ministre de l'économie de François Hollande. Donc c'est vrai que le vrai problème, pour en venir à votre question initiale, le vrai problème de Laurent Wauquiez ou d'un autre qui soit amené à présider les Républicains à partir de décembre, ça va être comment se positionner par rapport à un gouvernement qui, en effet, est manifestement de droite au niveau économique, très et même de façon...
C'est très contestable. Et pardon, je ne veux pas vous interrompre, mais je le conteste.
Juste et après vous contesterez.
C'est une évidence.
Et après je contesterai. De façon même de droite, et je le maintiens de façon très radicale. Et surtout, même pour en revenir simplement au niveau des principes, comment voulez-vous que la droite... Dans la phase néolibérale qu'elle a connue depuis les années 90, s'oppose au fait que les actionnaires aient plus de dividendes, que les travailleurs aient moins de droits, que les services publics aient moins de fonds.
Regardez la politique fiscale.
Comment voulez-vous, qu'est-ce que vous voulez que la droite dise avec ça? Donc c'est un vrai problème. Bon, évidemment, les constructifs, les 35 constructifs sont le symptôme de ça, parce que d'ailleurs, on voit très bien qu'ils étaient censés avoir des positions critiques à l'égard, avoir une sympathie critique à l'égard de Macron. En réalité, ils sont totalement à la botte du gouvernement. Ils n'ont bougé que sur les coupes sur les collectivités territoriales.
Ça les concerne directement et dans leurs propres intérêts, malheureusement.
Parce que ça concerne en plus leur fief, absolument. Absolument.
Et vous me donnez justement alors l'occasion de poursuivre un petit peu la discussion avec ce scrutin qui va avoir lieu dimanche. Il ne faut pas l'oublier, ce sont les élections sénatoriales. Alors, ce n'est pas des élections évidemment qui passionnent les foules, ne serait-ce que parce que le mode de scrutin est un mode de scrutin indirect. Le Sénat va être renouvelé pour moitié. Il est promis pour rester, alors je ne sais pas si je dois dire dans la majorité ou dans l'opposition, selon qu'on considère que la droite est au pouvoir ou que la droite n'y est pas. Mais en tout cas, est-ce qu'il va falloir regarder très attentivement les résultats de dimanche pour essayer aussi d'évaluer ce qu'est aujourd'hui un premier bilan politique du début de quinquennat d'Emmanuel Macron? Ou bien est-ce qu'il ne faudra pas aller jusque-là pour vous, Philippe Manière?
Je réponds à votre question, puis après j'aimerais très vite aborder un autre sujet, mais je réponds à votre question.
Bah oui, c'est quand même le sénatorial.
Faut être très prudent. Au Sénat, il faut être très prudent, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, précisément parce que c'est un suffrage universel, mais indirect. Ça correspond à des jeux compliqués. On ne sait pas bien ce qui peut en sortir. Enfin, la plus grande probabilité, c'est tout de même effectivement que la droite gardera le Sénat. Ça sera une forme de résistance, parce qu'en plus, la droite du Sénat est probablement moins ouverte à La République En Marche que la droite en général, enfin que la droite parlementaire à l'Assemblée. Cependant,
donc si la droite reste majoritaire, il faudra plutôt voir ça comme une résistance plutôt que comme une adhésion à la politique.
Ce sont des élections multilocales. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait un sens à donner à tout ça.
Manifestement, les élus locaux sont quand même assez en colère en ce moment.
Je
ne
veux pas donner l'impression que votre question n'a pas de pertinence.
Vous
n'oserais pas. Mais je n'aurais pas cette audace. En revanche, on peut tout de même rappeler que les institutions sont ainsi faites que ce que pensent les Sénats a malheureusement, quelle que soit d'ailleurs la couleur du Sénat, assez peu d'importance. Franchement, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Je voudrais juste dire une toute petite chose, mais on ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui, mais je ne veux pas ne pas l'avoir dit. La droite dans le monde entier, c'est une forme de conservatisme sur les terrains sociaux, sociétaux, etc. Parfois même, vous pouvez le qualifier de réactionnaire, en tout cas attaché à la tradition. C'est aussi un attachement à la prospérité économique passant par la libre entreprise. La droite française n'a pas ce second élément de code génétique. Elle ne l'a pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très embarrassés, ces braves gens. C'est-à-dire, comment contester un Macron qui, en faisant très peu à mes propres yeux, mais ça c'est une autre question, en fait bien plus qu'eux qui auraient dû faire ça il y a longtemps s'ils étaient vraiment de droite, du point de vue économique. Et donc on a une droite qui est en forme de durcissement sur le plan identitaire, sociétal, etc. et qui en revanche reste toujours aussi catastrophiquement défaillante dans sa manière de penser le monde sur le versant économique. Voilà, pardon.
Sylvain Bourmeau.
Donc si je l'ai bien compris, Philippe Manière vient de nous expliquer que même s'il n'était pas assez, Emmanuel Macron était plus à droite que la droite sur les questions économiques.
Mais oui, mais c'est facile, puisque la droite est de gauche. La droite en France est sur le terrain économique de gauche. Elle est jacobine, interventionniste, taxatrice, redistributrice. Mais... dans le monde entier, la droite française serait à gauche. C'est l'héritage du gaullisme d'ailleurs. Donc c'est facile pour vous, et vous avez raison de dire que Macron est plus à droite que la droite. Mais moi je vous objecte que ça ne veut pas dire qu'il est de droite, puisqu'à mes yeux, la droite est de gauche.
Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair.
C'est clair.
Je pense que c'est assez clair.
Si la droite est de gauche, alors la gauche
est de droite.
Je voudrais
revenir sur le Sénat.
Si la droite est de gauche, c'est pas difficile d'être moins à gauche qu'elle. C'est ça que je veux dire.
Je voudrais revenir sur le Sénat parce que je pense que ce qui est en jeu, en fait, on est en train de vivre des transformations dont on ne sait pas très bien si elles seront pérennes ou si elles marqueront une parenthèse. On a eu du mal à prendre au sérieux le phénomène Macron au départ pour une raison qui tient, à mon avis, qui est une bonne raison. Qui est que on était, quand on analyse la politique un peu sérieusement, je crois, on passait notre temps depuis des années à rappeler le rôle très important des organisations politiques, des partis politiques, face à des discours de journalisme politique très psychologisants, qui insistaient sur les personnes, etc. Et donc les sociologues disaient, mais non, attendez, il y a des structures, des choses, ça ne change pas comme ça, il y a des rapports de force, etc. Or, on a vu quelqu'un qui a littéralement envoyer tout ça, promener ces rapports de force, ces structures, ces organisations, qui a réussi à faire éclater le Parti Socialiste, les Républicains. Bon, le départ de Philippot, ça relève pas de ça. Mais enfin, voilà, qui a fait exploser littéralement le paysage politique. Donc la vraie question, à mon avis, et les sénatoriales seront un tout début de réponse, c'est dans quelle mesure les organisations politiques peuvent encore, dans un régime politique, dans un système politique dans lequel le culte de la personnalité, les médias, etc., jouent un rôle important, peuvent encore résister? Ou est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère où désormais on n'aura plus des partis qui vont durer des dizaines d'années, qui vont se structurer comme des organisations, et on a au contraire des gens qui vont devoir vendre leur siège, comme le PS cette semaine, et puis en fait il y aura des aventures successives qui seront construites autour de personnalités? Je pense que c'est une question extraordinairement sérieuse.
C'est un peu ce qu'on avait en Italie ou en Espagne, par exemple.
Donc, vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire, regarder les sénatoriales peut-être moins par rapport aux messages qui pourraient être envoyés au gouvernement après seulement quelques mois d'exercice, mais plutôt comme la capacité de résistance d'un système partisan traditionnel dont on dit qu'il est en train de totalement se déliter?
Non, mais j'ai toujours tendance à préférer qu'il y ait un certain équilibre entre les pouvoirs et qu'un même parti ou une même mouvance, un même homme ne possède pas tout dans un pays. Donc ça, il semblerait effectivement que La République En Marche soit en difficulté dans l'élection à venir au Sénat, enfin dans le renouvellement des postes en cours, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Ce qui est assez normal, puisqu'elle n'a pas beaucoup d'élus locaux, donc forcément, ça limite.
Mais bon, effectivement, plus généralement, c'est vrai qu'on assiste à une recomposition d'une ampleur qu'on n'imaginait même pas en mai dernier, en fait, lors de l'élection d'Emmanuel Macron, parce que maintenant, chaque parti est face à lui-même. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du PS aujourd'hui, mais enfin, comment le PS va renaître de cette affaire? Vraiment, c'est extrêmement compliqué. Et par ailleurs, la droite elle-même, depuis les années 90, n'a jamais réglé, n'a jamais tranché entre ses positions économiques et néolibérales et... la question de la fracture sociale, le gaullisme...
Si, elle a tranché, elle a tranché, non, fracture sociale, elle n'a jamais été libérale, sauf de 86
tranché,
à 88.
Elle n'a pas tranché, c'est d'ailleurs pour ça que l'élection de Jacques Chirac a été réglée en quelques mois. Il a été élu sur une fausse promesse qui était de s'attaquer à la fracture sociale, et on a eu les grèves Juppé en 95. Donc évidemment, la droite n'a jamais réglé ce tiraillement-là, et elle se retrouve face à ça encore aujourd'hui.
Non, d'accord. Juste d'un mot, puisqu'on est quasiment au terme de l'émission, mais alors vraiment une réponse très très brève à tous les trois. Pour vous, qui aujourd'hui incarne le mieux la droite en France? Si vous deviez donner un nom, qui a Sylvain Bourmeau?
Le chef de la droite aujourd'hui, il s'appelle Monsieur Philippe, il est Premier ministre.
Édouard Philippe, pour Philippe Manière.
Non, Édouard Philippe est très à gauche sur la carte du tendre de la droite.
C'est vrai aussi, oui. Mais c'est quand même le chef de la droite.
C'est le chef de la majorité qui n'est pas de droite. Donc moi, je réserve ma réponse, parce que je pense qu'effectivement, et c'est ce qui nous réunit dans le fond ce soir, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de chef de la droite.
Et pour vous, de l'ancien?
Moi, je dirais notre chef d'État. je monte encore les enchères par rapport à Sylvain.
Bon, on va laisser Philippe Manière réfléchir à cette question et nous donner la réponse.
Dès que j'ai une réponse, si voilà, le premier qui dort, réveille-le.
On se voit vendredi prochain, me semble-t-il.
Brésil. Donc voilà, on aura l'occasion d'en discuter. Et d'ailleurs, d'ici vendredi prochain, Philippe, puisque j'ai bien compris que les élections sénatoriales, c'était pas le sujet qui vous passionnait au premier chef, je vous invite à écouter...
C'est un plaisir d'entomologiste, hein. Mais ça sert pas à grand-chose.
Et bien alors, ce plaisir-là, vous pourrez l'avoir dimanche avec l'émission du Ligacon, dimanche et après, à partir de 18h15 et jusqu'à 19h, elle va s'intéresser justement à ce que représente le Sénat et la force qui peut être celle des élus locaux. Voilà, merci à tous les trois en tout cas d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr. Merci également à toute l'équipe du Grand, Antoine Dulster, Antoine Tricot, Fanny Richer, Isolde Sicard et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son ce soir d'Ali Yaha. Moi je vous retrouve demain à midi pour Politique en compagnie, figurez-vous, Arnaud Laporte, de Géraldine Mühlmann. On parlera des rapports entre journalisme et démocratie.
Très bien, je serai à l'écoute, évidemment, le samedi midi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Puis après, j'écoute Sylvain Bourmeau, enfin, je passe ma journée.
Voilà, vous avez votre week-end
avec vous, évidemment. Merci à vous. Dans 3 minutes, la dispute s'intéressera aux séries. Ce soir, avant cela, les titres de l'actualité avec Emma Sarango.